Bonjour à tous. Donc, avant d'aborder la question de la divinisation, j'aimerais, pour ceux qui écoutent les fichiers audio et qui ne regardent pas trop les fichiers écrits PDF que j'envoie, j'aimerais quand même finir le cours sur ce que être homme signifie. Donc, nous en étions au grand 2, personne et communauté. Nous avons vu avec Thomas d'Aquin, la question de l'unité de la personne humaine. Et là, on va aborder le fait que la personne est un être en relation. Et nous allons aborder aussi d'autres aspects, à savoir comment est-ce que une personne peut être la même à travers les changements vécus dans sa vie, c'est-à-dire qui suis-je, moi, à 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, 80 ans, moribonde, suis-je toujours la même? Ou bien est-ce que j'ai mon identité est altérée? Donc, petit 2 du grand 2, intitulé « Permanence dans le changement ». En insistant sur la notion de substance comme caractéristique de l'individu humain et de la personne, on indique aussi qu'il y a derrière tous les changements qui affectent une personne au cours d'une vie une forme de permanence de son identité propre, qu'on appelle en latin sa quidité, c'est-à-dire ce qu'elle est, ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est. Parce que il est inévitable de constater que la vie produit en moi des changements, des bouleversements, des altérations, mais il est aussi inévitable de constater que c'est toujours moi qui vis ces changements, ces bouleversements, ces altérations, c'est toujours moi qui les vis et qui les supporte. C'est en philosophie la notion même de sujet, subjectum, en tant que substrat des changements. Je suis un sujet à tous les sens du terme, dans tous les sens du terme, de droit, un sujet moral, un sujet de pensée, parce que il y a ce fond inaltérable de ma personne qui est ce qu'elle est en dépit de tout ce qu'elle a à traverser. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça signifie en langage chrétien? Et j'aimerais me fonder là-dessus sur un texte célèbre de Pascal, issu de la pensée 323 des pensées, où Pascal s'interroge sur qu'est-ce que le moi? Alors voilà ce qu'il dit. Un homme qui se met à la fenêtre pour voir les passants, si je passe là, si je passe par là, puis-je dire qu'il s'est mis là pour me voir? Non. Car il ne pense pas à moi en particulier. Mais celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté, l'aime-t-il? Non, car la petite vérole qui tuera la beauté sans tuer la personne fera qu'il ne l'aimera plus. Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on moi? Non, car je puis perdre ces qualités sans me perdre moi-même. Où est donc ce moi s'il n'est ni dans le corps ni dans l'âme? Et comment peut-on aimer le corps ou l'âme, sinon pour ses qualités qui ne sont point ce qui fait le moi, puisqu'elles sont périssables? Car aimerait-on la substance de l'âme d'une personne abstraitement, et quelques qualités qui y fussent? Cela ne se peut et serait injuste. On n'aime donc jamais personne, mais seulement des qualités. Qu'on ne s'en moque plus donc plus de ceux qui se font honorer pour des charges et des offices, car on n'aime personne que pour des qualités empruntées. Alors Pascal, comme à son habitude, veut nous mettre à l'épreuve et nous pousser à la contradiction, en remettant en cause la notion d'identité personnelle. L'identité ou le sujet, en philosophie, recouvre deux instances différentes. Le sujet, c'est ce qui fait la spécificité d'un être, sa singularité, ce qui le rend absolument unique. C'est aussi, en deuxième lieu, ce qui le rend identique à soi dans le temps. C'est l'identité, qui permane et qui demeure sous les changements. Dans un premier temps, Pascal élabore une forme de justification de l'amour que l'on porte à l'autre par les qualités qu'il possède en propre. J'aime un être parce qu'il est lui et non un autre, parce qu'il manifeste telle ou telle qualité. L'amour, en effet, choisit un être et l'isole des autres, le singularise en raison de son identité physique, morale, psychologique, intellectuelle, etc. Cependant, ces qualités sont périssables et transitoires. Par exemple, la beauté. Pascal ne dénonce pas le sentiment amoureux comme faux, superficiel ou inauthentique, mais montre que les qualités qui le motivent sont condamnées au changement et à la disparition. Qu'est-ce qui fait l'identité de celui que j'aime ? Son identité ne nous apparaît-elle pas dans toute son inconsistance ? En effet, son identité ne vient pas de son corps ou de sa beauté, car il change avec l'âge et la maladie. Est-elle donnée par l'âme ? L'âme le rendrait tel qu'il est et perdurerait dans le temps. On dit souvent que les qualités de l'âme sont plus durables que celles du corps et non soumises aux assauts du temps. Pourtant, qu'est-ce qui m'assure que je vais, toute ma vie, être spirituel, tenace, volontaire, facétieux, intelligent, etc. Je puis perdre la mémoire sans me perdre moi-même, dit Pascal, c'est-à-dire cesser de m'appréhender comme étant le même qu'avant. Le vieillard peut avoir le sentiment de perdre sa mémoire, ses souvenirs, sans prendre conscience de son identité. Sans perdre la conscience de son identité. Si donc le moi ne réside ni dans les qualités physiques, ni dans les qualités morales, psychologiques ou intellectuelles de l'individu, on peut dire que il est introuvable, le fondement de mon identité est introuvable. Où est-ce que je suis ? Qui est-ce que je suis ? Puisque je ne me trouve ni dans mes qualités du corps, ni dans les qualités de l'âme. Pourtant, j'ai conscience que ce moi demeure. Mais où ? Car tout ce que l'on dit de moi peut disparaître, tandis que le moi demeure, reste permanent. On est en pleine situation d'aporie, d'impasse. En effet, si l'on aime quelqu'un, c'est toujours par ce qu'il manifeste, ce qu'il donne à voir de lui empiriquement, expérimentalement. Or, c'est précisément ce qu'il manifeste qui peut disparaître. Puis-je alors seulement aimer ce qui reste permanent, ce qui reste sous les changements, à savoir la seule substance ? La substance d'un être, en effet, c'est ce que l'on ne peut lui enlever sans qu'il cesse d'être ce qu'il est. Aimer la substance d'un être, ce serait aimer la substance pensante à la façon de Descartes, c'est-à-dire une pure pensée détachée de la matière. Mais n'est-ce pas là pure abstraction ? Soit en effet on aime les qualités, c'est-à-dire rien, soit on aime la substance pensante, c'est-à-dire quelque chose d'entièrement abstrait, donc une pure abstraction propre à tous et donc ne caractérisant pas une personne en particulier. Dans un troisième mouvement, on peut voir quel est le point et le but de Pascal. Pascal a pour but de montrer que, selon ses termes, l'homme est un monstre incompréhensible, qu'il est tantôt plus, tantôt moins que ce qu'il croit être. Le texte nous montre d'abord que dans nos relations aux autres, autrui est perçu à travers ses qualités, ce qu'il montre de lui et non ce qu'il est dans l'intime. Ensuite, Pascal montre très bien le fait que le moi manifesté, pourvu de qualité et d'une histoire, ne peut être objet de connaissance, puisque précisément ces qualités et cette histoire sont de l'ordre de l'évanescence, sont instables. Pascal est un grand auteur, janséniste certes, mais profondément spirituel. Il faut comprendre ce texte en lien avec une autre pensée. Le moi est haïssable, dit-il. Il est haïssable parce que seul Dieu est intimement aimable et que notre ego nous détourne de lui. Il nous engage donc à nous défaire de notre moi afin de considérer l'essentiel, Dieu et son empreinte en nous, son image, qui n'a rien d'égoïque. C'est cette image qui rend la personne unique et qui la rend digne de respect, qu'elle soit atteinte d'handicap ou de la maladie d'Alzheimer, par exemple. Que dire alors de cela? Il faut dire que l'on aime quelqu'un non pour ses qualités, non pour sa substance abstraite, mais parce que c'est un être créé et voulu par Dieu. Voilà ce à quoi nous convoque Pascal. Pascal nous convoque à repenser en nous notre ego et à le dépasser pour qu'il soit resitué dans une perspective divine. Nous verrons ça davantage quand nous aborderons la question de la divinisation. Je passe maintenant à une étape suivante qui est individu et communauté. Donc petit 3, individu et communauté. Premièrement, l'homme est un animal politique. La personne n'est pas vouée au repli sur elle-même. Sans communauté, nul ne saurait vivre. Lisons ce passage de Gaudium et Spes. Paragraphe 25. Interdépendance de la personne et de la société. Le caractère social de l'homme fait apparaître qu'il y a une interdépendance entre l'essor de la personne et le développement de la société elle-même. En effet, la personne humaine qui, de par sa nature humaine, a absolument besoin d'une vie sociale, doit être le principe, le sujet et la fin de toutes les institutions. La vie sociale n'étant pas pour l'homme quelque chose de surajouté. Aussi, c'est par l'échange avec autrui et par la réciprocité des services, par le dialogue avec ses frères, que l'homme grandit selon toutes ses capacités et peut répondre à sa vocation. Parmi les liens sociaux nécessaires à l'essor de l'homme, certains, comme la famille et la communauté politique, correspondent plus immédiatement à sa nature intime. D'autres relèvent plutôt de sa libre volonté. De nos jours, sous l'influence de divers facteurs, les relations mutuelles et les interdépendances ne cessent de se multiplier. D'où des associations et des institutions variées, de droit public ou privé. Même si ce fait qu'on nomme socialisation n'est pas sans danger, il comporte cependant de nombreux avantages qui permettent d'affermir et d'accroître les qualités de la personne et de garantir ses droits. Mais si les personnes humaines reçoivent beaucoup de la vie sociale pour l'accomplissement de leur vocation, même religieuse, on ne peut cependant pas nier que les hommes, du fait des contextes sociaux dans lesquels ils vivent et baignent dès leur enfance, se trouvent souvent détournés du bien et portés au mal. Certes, les désordres, si souvent rencontrés dans l'ordre social, proviennent en partie des tensions existant au sein des structures économiques, politiques et sociales. Mais plus radicalement, ils proviennent de l'orgueil et de l'égoïsme des hommes qui pervertissent ainsi aussi le climat social. Là où l'ordre des choses a été vicié par les suites du péché, l'homme, déjà enclin au mal par naissance, éprouve de nouvelles incitations qui le poussent à pécher. Sans effort acharné, sans l'aide de la grâce, il ne saurait les vaincre. Saint Thomas d'Aquin, à la suite d'Aristote, considérait que l'homme seul, c'est-à-dire l'homme isolé, ne pouvait ni vivre ni bien vivre. Le lien social et politique est nécessaire au développement de la personne. L'homme, disait Aristote, est un animal politique, que Thomas d'Aquin traduit par sociable, sociabilis, à tel point qu'Aristote affirme que l'homme, sans cité, est soit une bête, soit un dieu. C'est-à-dire qu'il y a une complémentarité constitutive entre la vie en société et le développement de la personne. Vivre en société n'est pas de l'ordre de l'accidentel, mais est indispensable à l'épanouissement de l'être humain. Alors, je vous renvoie pour cela au cas des enfants sauvages et de Victor de l'Aveyron, que Truffaut a bien mis en scène dans son film « L'enfant sauvage », et puis aux expériences de l'empereur II de Frédéric II de Hohenstaufen. Je vous en ai parlé sur le Zoom, c'est-à-dire il avait isolé des enfants pour savoir, sans leur parler, des nouveau-nés sans leur parler, pour savoir quelle pouvait être leur langue d'origine. Et puis résultat, sans langage, c'est-à-dire sans élément de sociabilisation, parce que ça passe par l'homme, par le langage, les enfants ont vite fait de périr. La vie sociale se décline au fur et à mesure de l'âge de l'homme. Gaudium et Spes insiste particulièrement sur deux communautés, la famille et la communauté politique. En effet, c'est dans la famille que tout nouveau-né apprend et s'épanouit. En effet, le nourrisson, l'enfant puis l'adolescent bénéficient des conditions physiologiques pour leur croissance physique, mais en outre et surtout héritent de ce qui fait de l'homme un homme, le langage, les valeurs, l'héritage culturel. Le langage est le propre de l'homme. C'est par les mots et la parole que l'homme est capable de s'adresser à l'autre, de communiquer par la pensée et non par simples signaux, d'identifier le monde et les autres sous diverses formes, dont la première est le dialogue. Par le langage, je m'adresse à, je tisse une relation qui est loin de la simple réaction instinctive. La parole est déjà une médiation. Les valeurs sont aussi essentielles dans la construction de tout homme. L'éducation fait l'individu et l'on sait bien que les éducateurs défaillants laissent des blessures immenses. Pourquoi, par exemple, dit-on qu'un enfant maltraité maltraitera à son tour? Enfin, la culture, à savoir l'ensemble des chefs-d'œuvre légués par l'humanité, permettent à tout un chacun d'accéder à l'immensité des ressources spirituelles qui façonnent notre humanité. La communauté, c'est aussi la communauté politique, c'est aussi dans la société que l'homme est amené à se développer. La société est le lieu de tous les échanges, économiques bien sûr, mais aussi intellectuels, spirituels, affectifs. Gaudium et Spes insiste sur la réciprocité des services. Il ne faut pas voir cette idée comme un donnant-donnant, mais dans le fait que chaque homme est voué autant à recevoir qu'à donner. Une société ne fonctionne que par là. Pour reprendre une métaphore biblique, développement des talents. Évangélique plutôt. Elle ne réalise sa fonction, qui est de réaliser une harmonie et une égalité entre les individus, que si elle donne à chacun sa place, selon ses dons et sans jugement de valeur. Alors l'homme peut grandir, parce que le don que Dieu lui a donné s'épanouit pleinement. D'une façon très profonde, Gaudium et Spes montre que don et réception sont réciproques et indissociables. L'on ne s'accomplit qu'en donnant, c'est-à-dire en exprimant, en exploitant ses capacités propres, mais il est nécessaire pour cela de recevoir aussi, à savoir d'avoir le terrain propice pour le faire. Ainsi, nul ne saurait s'accomplir dans un régime totalitaire, dictatorial et tyrannique. Les talents ne peuvent s'exprimer que sur fond de liberté. C'est pourquoi Gaudium et Spes insiste sur les conditions de possibilité de chacun. Il y a là, clairement, une dimension politique et sociale. Qui peut s'épanouir alors qu'il est dans la plus misérable des conditions? Pour pouvoir développer ce qui est notre propre, nos capacités intellectives de pensée et de liberté, il faut, de manière absolue, qu'une vie matérielle soit dignement assurée. Nul ne peut se développer dans des conditions d'exigence indigne, d'existence indigne. Nul ne peut mettre en œuvre ses capacités intellectuelles sous un régime politique négateur des droits humains. Il y a là, à mon avis, dans Gaudium et Spes, un appel à la vigilance lorsque le texte rappelle que tous les désordres sociaux proviennent des tensions existant dans toutes les structures de notre société, économie, société, politique. Appel à vivre, il y a un appel à vivre non pas seulement de matière, mais aussi d'esprit. Un appel à porter secours aux démunis. Référez-vous aujourd'hui au cas des réfugiés, entre autres. Appel à la redistribution des richesses, appel à l'égalité de droits. Tout cela provient de la nature pécamineuse de l'homme, Sans cette nature pécamineuse, cet appel n'aurait pas lieu d'être. Très clairement, le texte renvoie au péché de l'homme et à sa faillibilité. Les cités humaines ne sont jamais exemptes du péché, mais il est de notre rôle de travailler à les rendre meilleures et à faire advenir sur terre le salut promis au ciel. La cité terrestre a pour but de rejoindre la cité céleste. Je vous laisse méditer ce texte de saint Augustin. Très célèbre. Deux amours ont donc fait deux cités, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité terrestre. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité céleste. L'une se glorifie elle-même, l'autre dans le Seigneur. L'une demande sa gloire aux hommes. Pour l'autre, Dieu témoin de sa conscience et sa plus grande gloire. L'une dans sa gloire dresse la tête. L'autre dit à son Dieu, tu es ma gloire et tu élèves ma tête. L'une dans ses chefs ou dans les nations qu'elles subjuguent est dominée par la passion de dominer. Dans l'autre, on se rend mutuellement service par charité, les chefs en dirigeant, les sujets en obéissant. L'une en ses maîtres aime sa propre force. L'autre dit à son Dieu, je t'aimerai Seigneur, toi sois ma force, toi ma force. En conclusion, j'aimerais vous dire que la personne humaine est l'exception de la création. Mais dans cette charge qui lui est allouée, l'homme a la liberté de sa réponse. Il peut refuser Dieu et sa loi. Il peut aussi bien s'y soumettre pour son bien le meilleur, qui est d'ordre surnaturel et spirituel. Dieu a choisi chaque humain. Il pourvoit à sa personne en dépit de ses tribulations. Le péché a maculé chacun d'entre nous, mais la grâce advient et est efficace.